des femmes,
des hommes,
des droits.
Une chronique de la Ligue des droits de l'homme de Bourg-en-Bresse. Bonjour amis auditeurs, Jean-Jacques Chavanne avec vous, bienvenue pour cette nouvelle chronique. Avec nous aujourd'hui, Jacques Fontaine. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Jacques, vous êtes militant de la Ligue des droits de l'homme, vous êtes également spécialiste du Maghreb, vous nous avez parlé récemment du Hirak en Algérie, mais vous êtes aussi, et c'est la raison de votre venue, membre au niveau local et national du mouvement France-Palestine. Et on va parler de la situation actuelle en Israël et en Palestine. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pourriez-vous nous dire ce qu'est France-Palestine ?
Alors l'association France-Palestine Solidarité, en abrégé AFPS, est une association qui a été créée il y a 20 ans exactement, en 2001, par la fusion de deux associations préexistantes, qui étaient l'AFP, Association France-Palestine, et l'AMFP, Association Médicale Franco-Palestinienne. Ces deux associations, qui étaient deux associations de soutien au peuple palestinien, ont souhaité se regrouper pour être plus efficaces, pour avoir un impact plus grand, et pour essayer de faire venir de nouveaux militants qui parfois étaient un peu rebutés par, disons, le fait que le mouvement pro-palestinien en France était assez divisé.
Oui. Donc, en tous les cas, c'est un engagement que vous avez. Et est-ce que vous pouvez m'expliquer cet engagement et me dire comment il se traduit ?
Alors, cet engagement, ça fait partie de mon histoire, évidemment. J'ai toujours été sensible à la question des relations entre les pays du Nord et les pays du Sud. Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'étais au cours complémentaire de Morvel, avant la création du collège, il y avait très peu d'élèves et les circuits de transport étaient très longs. Et on passait pour aller de Morvel à Jaïa par Étré, Marbeau, Foissia, Léchrou, etc., et Saint-Julien-sur-Ressouze, ce qui prenait quand même un temps certain. Et je me souviens, alors que j'avais 12 ou 13 ans, d'un transformateur sur la route de Morvel à Étré, sur lequel il avait écrit en énorme lettre capitale rouge foncé « Paix en Algérie ». Et comme à cette époque, il y avait de temps en temps, malheureusement, quelques jeunes appelés qui rentraient en Bresse dans un cercueil. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser cette question. Et puis après, bon, évidemment, après la paix en Algérie, je m'en suis éloigné. Et c'est revenu par la suite avec la question du Vietnam, avec la question de la Palestine. J'ai ensuite travaillé en Algérie où...
Mais alors, concernant la Palestine
Justement, j'ai travaillé en Algérie.
D'accord.
Où, justement, il y avait un soutien permanent à la lutte du peuple palestinien. Et là encore, ça m'a reboosté, motivé pour essayer de comprendre ce qui se passait dans ce territoire grand comme une petite région française, il ne faut pas l'oublier non plus, hein, et grand comme 4 ou 5 départements français. L'ensemble Palestine-Israël, c'est un ensemble minuscule. Et c'est un conflit qui dure depuis un siècle maintenant.
Ça m'amène à cette question, Jacques, justement, puisque Israël et la Palestine sont un point minuscule du monde. Il y a des conflits qui sont partout dans le monde, notamment en Syrie, qui font des centaines de milliers de morts. Pourquoi cette polarisation sur Israël et la Palestine ?
Je crois qu'il y a un premier point qui est un problème de colonialisme. Un deuxième point qui est le rôle de l'impérialisme occidental, en particulier français et britannique, au Proche-Orient. On a charcuté le territoire du Proche-Orient comme au traité de Berlin, on avait charcuté le territoire africain entre les grandes puissances européennes. Là, c'était la France et la Grande-Bretagne, enfin le Royaume-Uni, exactement. La partie sud et est, donc comprenant Palestine, Transjordanie, le pays au-delà du Jourdain, comme on disait à l'époque, et Irak, pour les Britanniques, et la partie nord, de la partie arabe de l'Empire ottoman, dire Syrie-Liban, au profit de la France. Et avec aussi une chose qui, moi, m'a choqué dès le départ, un avantage comparatif, si je peux utiliser cette expression, aux colons venant, aux colons juifs, et une déclaration des Britanniques, la déclaration Balfour, qui prévoyait l'établissement d'un foyer juif en Palestine, alors que c'était une terre qui était une terre arabe, où coexistaient les trois religions, ne l'oublions pas. Hein, les musulmans étaient majoritaires, les juifs et les chrétiens étaient minoritaires, et ils avaient un statut de protégés. Et trois religions coexistaient en Palestine jusqu'à l'occupation britannique de 1917.
Jacques, on ne va pas refaire l'histoire. Donc aujourd'hui, il y a l'État d'Israël, il y a la Palestine. Est-ce que vous voudriez refaire l'État d'Israël? Vous ne voulez plus l'État d'Israël? Où en êtes-vous maintenant par rapport à votre position?
Ah bah écoutez, l'État d'Israël existe. Quelles que soient les conditions de sa naissance, par une décision de l'ONU, pour laquelle l'ONU n'était pas mandatée, les statuts ne prévoyaient pas le partage de territoire. Hein, les statuts de l'ONU prévoyaient la décolonisation des territoires, et pas le partage. Quelles que soient les conditions de sa naissance, qui du point de vue juridique sont extrêmement contestables, aujourd'hui, l'État d'Israël a la fête. Et on ne peut pas, selon moi, arguer du fait que les conditions de la naissance de l'État d'Israël ne sont pas conformes au droit international pour dire qu'Israël est un État illégitime. Israël a acquis une légitimité, qu'on le veuille ou non. Hein, ça, c'est devenu un fait historique.
D'accord. Donc, Jacques, donc, il y a une succession d'événements qui se sont produits cette année dans la région, qui ont créé une nouvelle situation. Est-ce qu'on pourrait revenir sur l'enchaînement des causes?
Oui, naturellement. La cause fondamentale, de toute façon, c'est la colonisation. Hein, on est là sur la colonisation de l'ensemble de la Palestine. On ne va pas revenir sur l'État d'Israël en tant que tel. Oui. Pour moi, il est légitime. Mais, je sais que d'autres ne sont pas d'accord avec moi. Pour moi, il est légitime. Par contre, la colonisation du territoire de la Cisjordanie à le territoire de Gaza, même si Gaza est... S'il n'y a plus d'Israéliens à Gaza, Gaza est la plus vaste prison du monde, avec 2 millions d'habitants sur 365 km², c'est-à-dire moins de 6 ou 7% du département de l'Ain. 2,5 millions d'habitants, imaginez ça, sur l'équivalent d'à peu près deux cantons moyens du département de l'Ain. C'est une des densités les plus fortes du monde. Et en Cisjordanie, qui a la superficie grosso modo du département de l'Ain, donc un espace beaucoup plus vaste, encore plus peuplé, autour de 3 millions d'habitants, là aussi, il y a des centaines de colonies juives totalement illégales, y compris certaines illégales par rapport à la propre loi israélienne.
Donc, les accords d'Oslo, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, donc oui. On avait créé... l'espoir, donc, l'autorisation, en tous les cas, la reconnaissance de l'OLP, l'autorisation, l'autorité palestinienne, et avait laissé l'espoir d'une certaine régularisation de l'État, de l'État palestinien. Et donc, il y a eu une succession d'événements depuis qui ont complètement annulé ces prémices.
Oslo a été un espoir. Beaucoup de gens y ont cru, moi aussi. Mais ce n'était que la première marche d'un processus dont on savait qu'il serait long. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de deuxième marche, pour diverses raisons. Et, parmi ces raisons, il y a évidemment l'assassinat du premier ministre israélien qui avait signé les accords de Oslo, qui était Isaac Rabin, par un extrémiste juif d'extrême droite, soutenu par des rabbins d'extrême droite. Et ça, ça a été absolument catastrophique. Mais ce n'est pas le seul élément, bien entendu, mais on ne va pas rentrer sur les accords d'Oslo. Donc, depuis, l'ensemble de la question... est repoussé en permanence par Israël, qui maintient un statu quo colonial sur le territoire de la Cisjordanie et sur le territoire de Gaza, où les droits de l'homme sont bafoués. Hein, je pense qu'on va y venir tout à l'heure, mais je crois que c'est important de le dire très vite. Les droits de l'homme sont bafoués par l'État d'Israël, qui ne respecte pas les conventions internationales comme la Convention de Genève, les accords d'Helsinki sur l'eau, etc., etc. Toutes les règles internationales sont bafouées. Les prisonniers sont enfermés dans les prisons situées en Israël, alors que normalement, en cas d'occupation du territoire de notre État par un État, les prisonniers doivent être sur le territoire de cet État. Les droits de la défense sont bafoués, etc., etc. Et donc, par moment, il y a En plus, il y avait une situation un peu particulière en Israël depuis quelques années, puisque l'ancien Premier ministre Benjamin Netanyahou avait un certain nombre d'affaires. Je ne ferai pas de comparaison avec un certain président de la République française qui vient d'être condamné, mais c'est un peu la même chose. Et donc, tant qu'il se maintenait au pouvoir, il ne pouvait pas être condamné par justice. Donc, il a utilisé toutes les ficelles, tous les subterfuges possibles pour se maintenir au pouvoir. Et en particulier, au printemps dernier, on y vient, il a très violemment, il a fait agresser certains quartiers palestiniens de Jérusalem-Est. Jérusalem-Est, qui, je le rappelle, a été occupé et illégalement annexé au regard du droit international par Israël dès 1967, et dans laquelle il y a 300 000 Palestiniens qui vivent. Et donc, on détruit des maisons, on expulse des gens, et il y a eu des manifestations. Il y a eu des manifestations de Palestiniens, des manifestations juives extrêmement violentes, avec des cris de mort aux Arabes. La police israélienne a laissé faire, évidemment. Et il y a eu une agression contre l'esplanade des mosquées, qui a lieu sain à la fois pour les musulmans...
Dans Israël.
Pour les musulmans et pour les juifs, ouais. Dans Jérusalem-Est, donc dans la partie occupée de Jérusalem, avec des lacrymos à l'intérieur d'une mosquée. Et donc ça entraînait des ripostes extrêmement violentes. Ensuite, l'envoi de quelques roquettes par le Hamas et d'autres mouvements islamistes qui sont sur Gaza, et une réaction extrêmement violente d'Israël, puisqu'en 11 jours de combat, il y a eu plus de bombes, un plus grand nombre de bombes qui ont été déversées sur Gaza que pendant les 6 semaines de l'agression de 2014.
D'accord. Mais vous dites aussi, en citant Charles Anderlin, que les deux ennemis jurés, Hamas et Netanyahou, étaient en même temps presque des alliés objectifs.
Alors là, il faut revenir encore sur l'histoire, malheureusement. Le Hamas est issu des frères musulmans. Et dès l'occupation de la Cisjordanie et de Gaza, en 1967... Le pouvoir israélien, qui à l'époque était tenu par les travaillistes, joue un jeu ambigu en favorisant les islamistes, qui à l'époque ne faisaient pas de politique, qui se contentaient de faire de la cistana, comme bien d'autres religions d'ailleurs, ce n'est pas les seuls, pour lutter contre l'OLP, qui était le bras politique du peuple palestinien, et qui lançait ses fedayines, ses combattants, contre Israël. Donc une volonté de diviser le mouvement palestinien pour limiter l'influence de l'OLP. Et depuis, effectivement, il y a une position extrêmement ambiguë où à la fois on cogne sur le Hamas, voire on assassine ses dirigeants, et en même temps, comme le dit Charles Anderlin, on permet au Qatar d'aider la bande de Gaza. Et c'est des valises de billets qui arrivent à l'aéroport Ben-Gurion à Tel Aviv et qu'ensuite Israël convoie jusqu'à Gaza. Donc effectivement, il y a une alliance objective entre Hamas et Israël, pas seulement Netanyahou.
Mais alors finalement, ces événements donc, qui devaient conforter ces deux alliés objectifs dans leur radicalité, finalement, vous dites qu'en en fait, il y a une apparition d'un fait nouveau qui est peut-être un fait qui amène l'espoir. C'est le retour au premier plan du peuple palestinien.
Oui, parce que les attaques menées par Netanyahou contre, en particulier l'esplanade des mosquées et la mosquée Al-Aqsa sur l'esplanade, ont ressoudé le peuple palestinien dans ses diverses composantes. Les Palestiniens de Cisjordanie, les Palestiniens de Gaza, les Palestiniens d'Israël. Il y a eu de violentes émeutes dans des villes mixtes qui sont à la fois judéo-juives et arabes, comme Lod, comme Tibériade, comme Haïfa, etc. Donc, ainsi que la population, une partie de la population des camps de réfugiés au Liban. Et ça, ce n'est pas seulement un réflexe religieux, même si c'est un réflexe religieux, en particulier pour les gens du Hamas, c'est un réflexe nationaliste, parce que Jérusalem, l'esplanade des mosquées, sont le symbole de la Palestine. Et dans toutes les maisons palestiniennes, y compris chez les chrétiens, on peut trouver des photos du dôme du rocher. ce magnifique dôme qui date du 7e siècle, 8e siècle, je ne me souviens plus exactement, qui est aujourd'hui recouvert de feuilles d'or et qui est le symbole de Jérusalem, comme la tour Eiffel est le symbole de Paris.
Alors, les bénéfices n'ont pas été là pour Netanyahou, puisqu'il n'a pas pu constituer un gouvernement. Et les Palestiniens ont gelé les élections, de conséquence.
Les Palestiniens ont gelé les élections préalablement, au mois de mars.
Préalablement.
Oui. Donc, la direction palestinienne est une direction aujourd'hui qui est devenue totalement illégitime. Il n'y a pas eu d'élection depuis 15 ans, depuis 2006. Et un accord qui avait été trouvé entre les diverses factions palestiniennes pour organiser des élections en 2021 a été annulé par le fait du prince, le président Mahmoud Abbas, qui est un vieux monsieur de 85 ans. Je n'ai rien contre les gens de 85 ans. Dans 12 ans, si je suis toujours de ce monde, je les aurai. Ne préside plus, hein, qui se maintient au pouvoir pour se maintenir au pouvoir. Et comme son pouvoir était menacé, il a préféré annuler les élections. C'est tout à fait scandaleux.
Parce que d'autres voies sont possibles avec le retour du peuple palestinien. Et donc, c'est peut-être une des raisons.
Bien sûr.
Voilà.
Les premiers sondages qui ont lieu justement en mars pour ces élections montraient que ce soit pour les élections législatives ou pour la présidentielle, les pro-Abbas seraient extrêmement minoritaires au profit de gens, en particulier d'une opposition laïque dont l'un des têtes de file est Marwan Barghouti, qui a été condamné après la seconde intifada à, je crois, 4 ou 5 fois à prison à perpétuité pour des crimes qu'il n'a pas commis. Donc, autour de Marwan Barghouti, se structure actuellement un mouvement qui refuse à la fois la direction de Abbas et le Hamas islamiste, qui ne convient pas à bon nombre de Palestiniens.
On va conclure, Jacques, cet entretien qui est très riche et qui demanderait encore beaucoup de développement. Ce conflit donc israélo-palestinien dure depuis des lustres. Est-ce que vous restez, l'espoir est conservé chez vous? Est-ce que vous avez toujours espoir?
Oui, sinon je ne m'y plus. Oui, bien sûr.
Vous croyez au peuple, à une alliance, enfin, un accord entre les peuples israéliens et palestiniens?
À court terme, non. Et je pense qu'il faudra des pressions internationales énormes pour qu'Israël accepte de se conformer aux résolutions de l'ONU qui prévoient le retrait d'Israël et la création et le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Par contre, ce qu'on peut espérer, mais ça à très long terme, je ne serai pas là pour le voir, ça prendra des dizaines d'années, c'est qu'à terme, il y ait une fédération entre un État palestinien et un État israélien, parce que sur un territoire aussi petit que l'équivalent de 5 départements français, il me semble souhaitable qu'à terme, avec des interpénétrations importantes, à terme, il y ait une union économique, peut-être même une union politique. Mais ça, je ne serai pas là pour le voir.
Jacques, je vous remercie pour cet éclairage. Quant à nous, amis auditeurs, je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique.